qu'est-ce que c'est qu'un métier, qu'est-ce que c'est qu'un art, hein? C'est toujours des questions. C'est le monde rempli de questions, vous savez, auxquelles il est difficile de répondre, même si on se les pose à soi-même.
Chouette, dans le lointain il se passe plus rien, du moins il me semble.
Moi je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire, je fais aucune différence entre écrire un livre, travailler pour un film, me promener, dire des choses, et beaucoup de choses agréables pour un tas de gens, des inconnus que je connais quelque part, je sais pas où, que j'aime beaucoup, surtout les femmes.
Vous êtes sur Studio Zef, l'émission commence, et c'est la moindre des choses. La moindre des choses est une nouvelle émission de saison, une émission de radio où je vous propose de laisser traîner une oreille sur les petites choses. On y entend les gens compter leur vie, compter leurs rêves. Ici, c'est l'écoute du bruit de fond, le bruit du rêve dans le bruit du quotidien. On y change de regard, on y change parfois d'avis, et c'est la moindre des choses. Pour la première de cette émission, je vous propose d'écouter un peu de ce que la Radio Clown Caravane a récolté. La Radio Clown Caravane, c'est une caravane hétéroclite qui a parcouru cet été les routes à l'écoute de la vie des gens. Elle retranscrivait un peu de ses rencontres dans un spectacle donné sur la place du village. Un spectacle à usage unique. Le jeu de deux clowns, mêlé à celui de la récolte sonore, rendait avant le départ un peu de ce que nous avions reçu. Ici, c'est dans une autre forme que les sons récoltés depuis la caravane ont été transformés. Sans spectaculaire, on écoute aujourd'hui quelques images que les gens ont inventées de leur vie lors de notre passage d'été. Le silo semble abandonné. Croyant y trouver une mine d'objets à récupérer, nous y trouvons en fait Joël en pleine activité. C'est le temps des moissons, et Joël passe ses journées dans ce grand animal de tôle et d'acier. Depuis très longtemps, il est ouvrier agricole et roi de silo. Joël est de caractère prudent, et il traîne dans son sillage une odeur de farine.
Qu'est-ce que c'était ici? C'était un silo à
grains.
On peut regarder.
En fait, on est curieuse. On vous a vu.
Il pèse là sur le, à côté de la boîte aux lettres et il vide là dans le trou. Donc pour vider, c'est obligé de manœuvrer.
À côté de la boîte aux lettres, elle est où? Ah oui, là, pardon. Là. Ouais. Ok. Et après, il manœuvre et il vide là.
Mais vous venez de quel coin?
On vient du Loir-et-Cher, en fait, on part tout juste. On est parti
ce matin.
Et vous faites comment vous faites quoi juste
En fait, elles deux, elles sont comédiennes. Et on a une petite caravane scène à gauche.
Ça s'ouvre, en fait. C'est une radio comme une radio, ça s'ouvre et ça devient une scène. Et puis après, l'autre, pour dormir. Et pour écouter des reportages.
Voilà l'idée. On part à moins et demi. à l'aventure, à la rencontre. Pourquoi vous le stockez en fait, le grain ?
Pour le conserver toute l'année.
Et pour le redistribuer aux agriculteurs du coin ou non, pour le revendre ?
Ici dans le coin, non, ils n'en reprennent pas, mais après on le revend aux fabriques d'aliments. Il y a une partie du blé qui part dans les fabriques d'aliments et une autre partie qui est faite pour les minotiers, pour transformer, pour faire de la farine, pour le pain.
On dirait un escalier de pain.
Comme dans le moulin Faucin.
Avant, je dirais un autre silo où c'était des cellules béton, mais les cellules béton étaient à 60 mètres de profondeur.
Là, c'est combien là ?
Là, il y a quoi ? Il y a
15 mètres.
3, 4, 5, il y a 6 mètres de profondeur. C'est tout. La passerelle toute petite en béton. Attendez, excusez-moi.
Toi, c'est juste pour les vacances.
Là, je comprends juste.
Ah, c'est le début.
Ouais.
Et tu fais ça juste pour le moisson ?
Ouais, pour les moissons.
En 15 jours ?
Ouais. En 15 ou 3 semaines, ça dépendra des moissons. En fait, c'était sur une petite passerelle bétonnée. Et quand tu avais le train qui passait, que le silo était vide, ça vibrait. Ah, je peux dire que la première fois que je suis monté en haut, que je suis monté sur la passerelle, moi, je ne savais pas. Ah, il y a un TGV qui est passé, je suis sorti en partout, putain. Oh, je fais si gentil ça. Quand t'as 60 mètres de vide sous les pattes, tu fais oula.
Faut pas avoir le vertige pour travailler dans un silo. Donc il y en a 6 ?
10.
10.
Il y en a 10 par silo.
7, 8. Pourquoi j'en
ai 9, 10. Il y en a une rangée, enfin deux rangées dans le milieu et puis
ouais.
Il y en a 4.
Et les tous sont ouverts en même temps ?
Non, on n'en ouvre que 2 par 2.
Pourquoi ?
Sinon après ça va trop vite et après on bourre les élévateurs. Et quand ça bourre, après, c'est encore à la main qu'on débourre et qu'on ramasse le grain.
Et il y a des moments où ça ne marche pas ?
Oui, il y a des fois ça ne marche pas.
Genre c'est bouché par un rat ou je ne sais pas quoi ?
Non, bouché par de la mauvaise herbe, enfin de la baluche. Des fois ça arrive. Cette année, ça m'est arrivé. Sur 10, il y en avait plus que 3 qui coulaient. On se fait bien chier après. Ça fait une plus grosse quantité de grains manipulés à la main.
Et pourquoi il y a des barrières là comme ça?
Les tubes là, c'est des renforts pour éviter que les cellules s'écartent.
Donc là, c'est en métal, tout en métal.
Si vous voulez, quand elles sont pleines, c'est 250 tonnes qu'il y a dedans. Donc ça fait déjà une bonne pression dessus.
Beaucoup d'éléphants.
Et quand on pense que c'est de la petite tôle qui fait 2 mm.
Il y a souvent des accidents de silo, non?
Oui, un peu, ouais.
C'est parce que les gens tombent dedans?
Oui, et puis il y en a qui font pas trop gaffe. Donc maintenant, nous mettons pas mal de normes de sécurité. Mais...
Oui, donc
je pilote le silo du bas et puis de temps en temps, je viens là, soit là, soit sur la passerelle pour vérifier où ça coule, que ça marche bien. Je descends dedans juste à la fin pour les pelleter, quand ça coule plus dans les trous. Mais bon, quand ça coule plus dans vos trous, c'est 30 tonnes à pelleter.
30 tonnes ?
Ouais, par cellule.
Il en reste
donc
30.
Donc un semi.
À la main, quoi.
À la main. Donc ça fait que quand j'ai fini de pelleter mes 8 cellules, ça fait comme si j'avais pelleté l'équivalent d'une cellule qui était pleine.
Ah, donc ça fait
les bras. Ça fait les bras.
Oh, à la main.
Là, c'est du blé à côté de l'orge. Mais l'orge pour l'alimentation du bétail. C'est l'orge pour faire la bière, je ne l'ai pas encore reçu. Celui-là, il est une mauvaise qualité. Donc il partira pour l'alimentation du bétail.
Lié au temps qu'il a fait ? Ou parce que...
Oui, celui-là, c'est lié au temps qu'il a fait et aux maladies qu'il y a eu. Il y a eu pas mal de dégâts.
Ça, c'est les
ça,
tests
c'est les échantillons de grains qu'on garde pendant un an. Chaque remorque qu'on reçoit, on fait un échantillon.
Ah ouais, donc il y a une logistique, comment on appelle ça, un suivi.
Il y a beaucoup, beaucoup de papiers.
Ah. On en parle. Bah ouais, pour tout ce qui est traçabilité.
Traçabilité, c'est...
C'est ça, je cherchais le mot traçabilité.
Il y a énormément de papiers, énormément de... C'est beaucoup de conneries pour faire un chose. Hein.
Allez, on va essayer de pas cramer le moteur. Allez, on reprend la route. Merci, bon été alors. Bon courage pour votre été, sous la chaleur du mois de juillet. Au revoir.
Dans un village de moutons, un homme vit seul avec ses brebis et ses chevaux. Benoît est accueillant. Il a envie de raconter son histoire année après année. C'est vrai que lorsqu'on n'a plus d'argent, on regarde chaque jour arriver comme un nouveau défi. C'est peut-être pour cela que Benoît nous livre son histoire date après date, jusqu'à ce jour béni où tout va bien. Enfin presque, car il est toujours à la recherche d'une stagiaire.
Bonjour.
On est revenu. Bonjour.
Ouais. Je suis en train de faire la sieste. Là. C'est la fin de lactation et je les traite le matin actuellement. Là, elles attendent même pas de rentrer. Là, ça va.
C'est un dimanche tranquille.
C'est un dimanche tranquille, ouais.
Et là, c'est toutes vos brebis, là.
Ouais. Alors là, il y a des brebis et puis il y a des alliés qui sont occupés là-bas. C'est le parc, c'est le jardin des agneaux de Mouton Village en fait.
Ah, vous êtes là, vous êtes au cul de Mouton Village. Enfin.
Ouais, enfin, c'est façon de parler. Les visiteurs, ils arrivaient par le chemin et je leur faisais visiter tout le truc. La salle de traite, la fabrication, l'élevage, je leur montre tout ça. Enfin.
Théâtre qui s'appelle la compagnie Jean et Faustin dans le Loir-et-Cher.
Okay.
Et là, on est parti pour un projet sur tout l'été d'itinérance, d'où nos caravanes radio, et on va à la rencontre des gens.
En fait, on prend plein de sons, enfin, on prend plein d'entretiens ou alors des ambiances sonores.
Okay.
Et puis, à partir de tout ça, on monte un spectacle radio clown, donc avec le clown aussi.
Mais c'est un spectacle fabriqué en moins d'une semaine.
En fait, l'année dernière, au mois de juin, j'avais envie de tout lâcher, quoi. Et puis, en même temps, j'aime mon métier, voilà, c'est super bien, quoi. Et en janvier, cette année, je me disais comment ça va faire, quoi. Et en fait, dès que l'annuelage a commencé, eh ben, ça change tout, là. Parce que avant, en décembre, bon, les brebis sont là, il faut leur donner à manger deux fois par jour. On les voit grossir, ouais, c'est bien, bon, mais il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Après, il y a les agneaux qui naissent, ça court de partout, c'est trop rigolo. Après, ouais, là, j'aime mon métier. Puis ça y est, je remets la fromagerie en ordre et tout ça. Et puis voilà. Et puis en même temps, j'y arrive, je me dis, putain, c'est bon, j'y arrive à faire tout seul. Impeccable. C'est possible. Ouais, j'espère que ça va marcher. D'accord. Mais normalement, c'est vrai que je suis sur la bonne piste. Là. Tous les ans, alors en fait, en même temps, ce qu'il y a, c'est que... Ouais, tous les ans, j'en réforme une trentaine, les moins bonnes, et j'en élève une trentaine pour les remplacer. Mais pour les remplacer, pour qu'elles fassent du lait, dès la première année. Mais pour qu'elles fassent du lait la première année, déjà, il faut un agneau la première année. À un an, quoi, à peu près, à leur anniversaire, il faut qu'elles fassent un agneau. pour qu'elles fassent un agneau à ce moment-là, il faut qu'en septembre, elles acceptent le bélier, quoi, qu'elles viennent en chaleur. Quoi. Mais pour qu'elles viennent en chaleur au mois de septembre, il faut qu'elles aient du gabarit. Il faut qu'elles aient bien grandi. Et pour qu'elles aient bien grandi, il faut leur donner à manger. Et pour leur donner à manger, il faut avoir des sous. Voilà, j'arrive à la fin du mois, là, j'arrête de traire, je tarie le troupeau. Là, j'ai hâte, quoi. Je commence à en avoir marre de me lever le matin pour les traire. Donc, j'ai hâte. Après, c'est vrai que jusqu'à... Normalement, elles restent dehors jusqu'à mi-octobre, fin octobre. Ça dépend un peu de la saison, quoi, de l'herbe qu'il y a et puis du temps qu'il fait. Mais du coup, j'ai le temps de monter à cheval, de faire ce que j'ai envie, un peu. De... Au départ, en fait, quand j'ai fait mon BTS, je préférais les brebis parce que c'était un type d'élevage extensif, plutôt. Et ça me plaisait.
C'est pas pour l'animal, c'est plus pour le fonctionnement de l'élevage.
Au départ, ouais. Mais c'était en élevage viande. Donc ça n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement. Après, si, elles sont sympas quand même. Les agnelles, les brebis, après, ça fait des grosses mémères, là, qui, bon. Mais c'est une race en même temps qui est assez familière. Quand il y avait les visites, souvent elles venaient à la barrière se faire caresser et tout ça. Bon. Souvent ça étonnait les gens parce que effectivement tu rentres dans une bergerie d'élevage de viande, les brebis elles montent au mur quoi. Et un groupe qui rentre dans une bergerie comme ça, elles sont paniquées. Là non, elles viennent voir là plutôt. Et puis comme elles passent à la traite, c'est ça, elles sont familières. Et puis à force elles connaissent l'éleveur aussi.
Et donc tu t'y attaches ?
Tu vois, la semaine dernière, j'ai dû en euthanasier une, j'ai pas aimé, quoi. Bon, mais bon, en fait, j'ai arrêté un peu de donner les prénoms. Il y avait Géraldine, il y avait Bernadette, il y avait Beauté du Cameroun.
Beauté du Cameroun ? Mmh. Parce qu'elle était métisse ?
Et noire, ouais.
Qu'est-ce que tu préfères dans la journée, ton moment préféré ?
Ça dépend. Des fois, c'est quand je me fous devant mon canapé que je prends ma bière. Quoi. Non, ça dépend de la saison aussi. Mais quelquefois, c'est le matin quand je me lève et quand je vais à la bergerie. C'est vrai. Au petit matin, comme ça, quand il fait encore... Même quand il fait nuit encore en mode de février, janvier, février, là. J'aime bien, là, je mets la frontale. Allez, je remets le brebis. Oh, c'est sympa.
C'est à quelle heure le matin qu'il faut y aller ?
Ah, au moment de l'agnelage, je pars d'ici, il est 6h30. Ouais, c'est pas non plus à 5h. Mais ça me fait des bonnes matinées. Non, et puis en plus, cette année, je me suis super bien organisé. J'ai toujours dit ça. En fait, à partir du moment où j'ai commencé à faire du fromage et à faire un petit élevage de poney de sport en plus, tout ça, je me suis dit, mais putain, mais on m'aurait dit ça il y a 5 ans, enfin bon, voilà, avant que je fasse ça, qu'un jour je ferais mon fromage de brebis, que j'aurais mon petit élevage de poney de sport et tout, j'aurais jamais cru, quoi. L'année dernière, quand vraiment j'avais le moral dans les chaussettes et que je me disais, est-ce que j'arrête tout et tout, et puis mes parents, ils voyaient bien que, de toute façon, en plus, j'avais... Tout le temps, j'avais des merdes, quoi. Tout le temps, j'avais des soucis de trésorerie, j'avais du mal à dormir. Arrête. Mais en même temps, c'était un peu... Pour eux, c'était, à la limite, j'aurais retrouvé un boulot de prof dans un lycée agricole. Bah, c'est vrai que pour eux, c'était plus tranquille, quoi. J'avais moins de soucis.
Ils s'inquiétaient moins pour toi, du coup.
Et puis, voilà. Mais en même temps, j'ai réfléchi. Attends, si j'arrête, qu'est-ce que je vais faire ? Je peux retrouver un boulot. Je suis accompagnateur de tourisme équestre, alors je pourrais trouver un boulot d'accompagnateur de tourisme équestre dans une belle région. Mais en même temps, non, j'aime bien ce que je fais. Non, faut pas que je reste tout seul, quoi. C'est ça mon truc, quoi, maintenant.
mouton, c'est un peu con.
Mais si le mouton est con, la moutonne, je te dis pas. Ouais, ils sont un peu cons, ouais, quand même. Ouais. Mais, non, pas toujours. En fait, l'intelligence du mouton, quand même. J'ai une machine à traire, un manège. Elle rentre dans le manège pour aller manger dans une mangeoire. C'est ce qui les attire, hein, parce que sinon, elles ne viendraient pas se faire traire. Hein. Donc, elles viennent manger de l'orge ou du maïs, enfin bon. Donc, elles rentrent sur le manège et elles vont se mettre comme ça. Et juste à leur droite, il y a l'interrupteur pour faire avancer ou arrêter le manège. Et alors, il y en a qui ont trouvé le truc, qu'en fait, si elles arrivent là et puis que le manège est arrêté, ben, elles peuvent pas aller manger parce qu'il y en a une autre qui est là et le manège n'avance pas, donc elles peuvent pas aller manger. Du coup, elles appuyaient sur l'interrupteur. J'avais un interrupteur, comme tu sais, pour mettre la lumière dans les pièces, quoi. Un truc facile. Et ben, il a fallu que je le change parce qu'à chaque fois, c'est arrêté. Moi, je suis en train de faire... Putain, le manège qui retourne. Ben, c'est l'autre qui appuie sur le bouton pour faire avancer. Ça veut dire que quand même, elle a réfléchi qu'en appuyant là, ça a avancé là. Et c'est pas con.
C'est pas si con.
Ah, c'est pas si con que ça, le mouton.
Benoît nous avait trouvés devant le jardin de Vérine et nous avait pris en stop dans son camion rempli de fromage. Vérine, c'est le jardin d'un rêveur. Toute sa vie ouvrier dans la même usine, une fois libéré, Gérard s'est mis à rêver. Qu'il pouvait donner sa propriété, qu'il pouvait accueillir ceux qui rêvent, qu'il pouvait faire des expériences d'alternative. Gérard est un rêveur et dans son rêve, il a accueilli celui de Sébastien. Lui, il voulait devenir jardinier de légumes. Cela fait un an qu'il a installé son champ sur les terres de Vérine, sur un terrain légèrement en pente, faisant face à un merveilleux horizon de bois et de chevreuils. Modeste, lent et curieux, Sébastien regarde le fruit de son travail.
Alors Gérard, quand on est arrivé ici, tu nous as dit que le jardin de Vérine, c'était le jardin de tous les possibles, de tous les rêves.
Oui.
Quel est ton rêve à toi ?
Mon rêve à moi ? Mon rêve, il est en train de se réaliser. Alors mon rêve, le mien, il est déjà fait. C'était de pérenniser ce lieu, et puis d'aller dans le partage, d'aller dans la gratuité, d'aller dans le don. Et ben, ça, c'est démarré. Donc un rêve en amène un autre, et l'autre rêve, bah, c'est que les rencontres se multiplient, qu'on arrive à essaimer. Il faut pas garder, il faut essaimer. Alors tout ce qu'on fait ici est transmissible pour d'autres endroits. Voilà. Mon travail, ce que faisais avant, m'a pas permis de rendre la magie de ce lieu. Mais maintenant que je suis en retraite, ben c'est possible. Ce lieu est un lieu où probablement beaucoup d'hommes ont dû faire des choses, des tas de choses. Le four à pain en témoigne, le puits en témoigne. c'est pas normal qu'il n'y ait qu'une seule personne dessus, enfin qu'une seule petite famille. Et donc redonner à ce lieu un peu d'humanité, un peu de personne, c'est quelque chose que j'ai eu envie tout de suite. Il y a plusieurs années, avant de savoir que ce rêve pourrait s'accomplir, j'avais dit qu'il fallait que je fasse rentrer le village dans le four à pain, sans jamais connaître personne d'ici. Et puis, c'est en train d'arriver, quoi. C'est comme ça que je perçois ce lieu. C'est difficile, c'est compliqué, parce que je suis pas d'ici. Mais ça va se faire parce qu'en plus il y a une jeunesse qui m'accompagne, donc ils ont plein d'idées, plein de dynamisme. Et ce que j'ai envie, c'est que ce lieu soit quelque chose qui devienne important pour la dynamique du village, parce que je pense que il faut absolument avoir un regard sur les alternatives. Il faut aider toutes les alternatives parce que elles ont plein de bon sens. Si on a des jardins, si on a une monnaie locale, si on arrive à obtenir le revenu d'existence inconditionnel, à ce moment-là, tout peut s'arrêter, l'économie peut s'arrêter. On continuera d'être dans le don, dans le partage et on continuera de vivre. Et tout ça, vu mon âge, tout ça, c'est surtout pour les enfants, les petits-enfants des petits-enfants. on cherche des énergies libres, on cherche des choses comme ça, d'un point de vue scientifique, mais la vie est libre, est éternelle. Voilà, donc...
Il y a une phrase que j'aime bien qui dit que le contraire de la mort, c'est la naissance, c'est pas la vie. La vie n'a pas de contraire.
Alors moi ici, j'ai réfléchi à ça, j'ai un lieu, j'ai un endroit là où il y a un petit pommier du Kazakhstan qui est planté, où il y avait un vieil arbre, vieux poirier qui était là, et je me suis dit que c'était l'endroit où il fallait dire que la mort n'existait pas. Je pense que c'est simplement une notion sociétale. La mort, on est sur un... La Terre ne nous donne que la vie. Après, un individu disparaît. Il y a la tristesse de son départ, mais c'est pour permettre à la vie de continuer. Mais par contre, c'est sûr qu'on a besoin, dans nos sociétés occidentales, de reconsidérer peut-être notre manière de penser et puis de se dire que... Arrêter de marchandiser toutes les choses et même la mort. Et puis en plus, moi personnellement, ce que je crois, c'est que tout ça est orchestré par une minorité, pour le coup, qui détient tout. Je pense que la femme de n'importe quel pays n'a qu'une envie, c'est que son enfant vive et soit heureux. Donc ça, c'est le point de départ de tout.
Et le père.
Et le père aussi. Le père qui accompagne le père, qui bien sûr, oui, le père. Je dis la femme parce que j'ai des lectures de Pierre Rabhi et puis que dans Pierre Rabhi met le féminin, voilà, Pierre Rabhi dit que ça passera par le féminin pour pouvoir changer le mode de pensée de l'humanité, et moi je crois que oui, le bon féminin. Bien sûr, faut pas une Thatcher.
Ton grand-père, quand il nous a présenté le jardin de Vérine, il nous a dit ici, c'est le lieu de tous les rêves possibles.
Mon rêve, c'est de faire du... Des grosses choses en bricolage, c'est-à-dire des bricolages, du jardinage et tout ça. Mon rêve, c'est de faire beaucoup de choses en électronique, beaucoup de jeux en électronique.
Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'en fait, je suis arrivé en 95 ici et on m'a proposé ce lieu, et bien avant la maison. C'est d'abord le lieu qui m'a parlé. Je suis un peu ému. Moi, je dis que ce lieu est magique et il faut le rendre magique, c'est tout.
Nous arrivons sur le jardin de Sébastien.
Salut. Ça va ?
Ouais, toi ?
Ouais, vous y êtes depuis longtemps ?
Plus d'une demi-heure.
C'est quoi ça ?
Ça, c'est de la betterave orange. Ouais, elle est un peu petite, ça. Je me suis fait avoir. Mais...
Mmh. Ouais. Ça va ?
Ça va. J'ai bien dormi dans ta caravane.
18, ouais. 10. Ouais, je pense qu'on en a assez. Ouais, c'était 4 paniers une personne et 5 paniers deux personnes, en comptant un panier pour vous.
Ça, c'est les bêtes ?
Non, ça, c'est les betteraves jaunes. Mais ça ressemble pas mal. Hein. Les bêtes, elles sont juste en face. Mais c'est vrai que des fois, t'as des bêtes, on dirait vraiment ça. C'était une variété de cocopélie, ça, que j'ai multiplié d'année en année. Là, je récoltais les graines à chaque fois. Et du coup, c'était bêtes à cardes multicolores. Donc toi, ouais, t'as des cardes de rouges, des blanches, des fois il y a des jaunes. T'en as vu des jaunes ?
Non, pas ici.
Ouais. Et la première année, je voulais des rouges, j'ai pas eu une seule rouge, il y avait que des blanches et des jaunes. Ouais. Puis après, d'année en année, ça s'est un peu mélangé. Okay. Non, dans les rouges, là, il y en avait plein de tons différents. Bon, après, ouais, faudrait peut-être... un peu mieux sélectionner les graines, c'était au début que j'avais fait ça. Du coup.
Faudrait que tu arrives, mais en fait tu peux pas savoir quelle couleur elles auront.
Non, mais par rapport à la taille du pied. Parce que tu vois, là ça avait grainé, c'était la première année du jardin associatif et on avait récupéré les graines sur n'importe quel pied quoi. Alors que le mieux c'est quand même de prendre tes graines sur des pieds assez gros quoi. On fait des belles cardes ou des grandes feuilles aussi, ouais, selon ce que tu veux sélectionner. Et au moins après t'as plus de chances que ta graine elle te redonne une belle plante. Que là ça a dû un peu dégénérer. Celle-là, bon. Ou alors il y a peut-être le climat aussi qui a joué. Puis après le trèfle là on le laisse pour. Enfin moi je le laisse pour que ça fixe l'azote. Il y a de la fausse luzerne aussi, pareil. Ça se ressemble vachement en fait, ça. Juste là, il y a les deux. La fausse luzerne a le point noir là. Donc, ça, c'est pas du trèfle, c'est de la fausse luzerne. Et après, le trèfle, ouais, il a les traits blancs lui, autour. Là. Donc, ça, c'est pas les deux mêmes. Ouais, ça ramène l'azote. Ça fixe l'azote qui est dans l'air, dans la terre. Maintenant, on peut le voir en plus. On en devient un par là. Ouais, on va prendre celui-là. Alors... Bah, lui, il n'y en a pas. Bah, ça arrive des fois. Bah, ça fait des petites billes dessous. Ah, là, il y en a, là. Là, c'est ça, là. Les petits trucs blancs, là.
Et c'est quoi ?
Bah, c'est la plante qui a fixé l'azote de l'air dans la terre.
Et souvent aussi, après un champ de monoculture, après l'hiver, ils mettent ça, non ?
Ouais, maintenant c'est ils ça. Le font un peu, ouais. Et couverts végétaux,
ouais.
Ouais, ça les embête un peu de le faire, certains. Mmh. Après, en bio, c'est quand même ce qu'ils font le plus, quoi. Engrais vert, couvert végétal. Et là, moi, je suis en train d'essayer des trucs pour faire une couverture végétale, un mulch vivant en fait, au lieu de pailler avec de l'herbe que tu as coupée ou du foin ou de la paille et tout. Mm-hmm. Là, le truc c'est de faire des tapis de choses qui sont rares, un peu comme le trèfle. Mm-hmm. Et là je l'ai fait hier avec de la menthe. Dans la partie là dans le jardin, après ça va être des bandes de vivaces avec des arbres fruitiers tous les 20 mètres. Mm. Et après entre chaque bande des légumes comme on est là. Et c'est un peu de l'agroforesterie mélangée avec du maraîchage, ça fait un peu verger, potager après. Et puis dans cette partie aussi tu peux rajouter, donc là tu as les arbres fruitiers, le couvert végétal vivant, les buissons fruitiers, et là tu rajoutes encore après des grimpantes. Donc fruitière aussi, c'est encore mieux. Donc tu mets mur sans épines, de la vigne, de la groseille grimpante aussi. Tu peux même rajouter quelques haricots grimpants, comme ça va te fixer l'azote aussi en plus au sol. Puis eux, ils vont grimper dans les arbres à côté. Tout dans l'idée de du jardin forêt, quoi. Forêt comestible sur plusieurs étages. C'est long, quoi. Mmh. Ouais, le temps de le planter, pousse, mais... ça pousse. Puis si t'as foiré, il faut que tu recommences que l'année d'après. Si t'as raté le créneau au niveau saison, quoi. Voilà, ouais, c'est un peu long, tous les essais, quoi.
C'est le travail de toute une vie.
Ouais, c'est ça, ouais. À la fin, après, à ta retraite, tu peux écrire un bouquin. Mmh. Bah ouais, des petits jardins, des petites fermes en permaculture, agroécologie, ouais, ça pousse de plus en plus, ouais. Pour ceux qui arrivent à trouver des terrains, parce que c'est un peu la mission, ça aussi. Le projet, il est né quand même, on était encore à la coloc, nous, c'était en 2007, un truc comme ça. Et on est arrivé ici que l'année dernière, donc 2012. Entre temps, on a perdu 2 ans sur un autre terrain où la DDE nous bloquait à chaque fois avec le code de l'urbanisme et tout pour installer 3 habitations. Enfin, c'était un peu éco-hameau avec une petite ferme en agroécologie. C'est un peu la mission du foncier en ce moment pour tous ceux qui veulent faire ça. Ça, bah, la terre elle est pas lourde, là. Elle est bien sur le jardin associatif. Avant on avait une terre argilo-calcaire, beaucoup de cailloux, puis qui collait pas mal dès qu'il y avait de la pluie, quoi. Alors que ici c'est un peu plus léger, quoi. Il y a un peu d'argile quand même, mais beaucoup moins, pas trop de cailloux, et puis c'est un peu sable très fin, un peu de limon,
donc c'est une bonne terre.
Ouais, c'est un peu plus sympa qu'on était avant. Mais j'ai l'impression qu'elle a l'air de se compacter assez facilement quand même. Donc,
il faut encore observer.
Ouais. Il y a le climat aussi qui change tous les ans, donc c'est un peu bizarre. L'année dernière, c'était un peu une année moyenne, là. Et je me suis dit, cette année, ça sera mieux, mais... c'est pire. Bah ouais, l'été il a commencé vraiment fin juin, quoi, quasiment. Donc, on dirait qu'il n'y a plus que 2 saisons maintenant, quoi. Chaud et sec, et puis froid et humide, quoi. On va faire pousser, je sais pas, si ça devient tropical, on fera
des bananes.
Des bananes et tout, quoi. Ouais, ce cacao, ça peut être sympa, ça, par contre. Ouais. Moi je vais bien arrêter les patates pour faire du chocolat.
C'est quoi toutes les plantes là qui sont montées en graines? C'est là.
Ça c'est les clénopodes.
Clénopodes, ça se mange, ça, non?
Ouais, c'est un ancien épinard. Enfin, c'était cultivé avant, en tant qu'épinard.
Et tu le cultives en tant qu'épinard, toi?
Non, il pousse tout seul.
Et tu le mets dans tes paniers?
Pas vraiment, mais si ceux qu'on veut, ils en prennent. Ouais, c'est à tout le monde. On va voir ce que ça va donner.
C'est pour quand la récolte?
Je sais plus.
Des villes et des campagnes sous l'effet de nos baisers de propane. Cœur léger dans les nacelles. Les amoureux volent dans le ciel, laissant en bas les cœurs lourds de ceux qui n'ont au-dessus des villes et des campagnes, sous l'effet de nos baisers et de propane. Cœur léger dans les nacelles, les amoureux volent dans le ciel, laissant en bas les cœurs lourds de ceux qui n'ont laissés sur les messageries de portable, sans les ballons de nos berceaux qui s'envolaient, sans les seins de Sophie Marceau.
Pour finir cette première émission, une promenade sonore à travers champs avec Denis, activiste venu de Belgique pour occuper la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ici, luttes et combats se comptent en douceur et en silence sous l'ombre des pins.
Et du coup, ils ont attendu le 17, le 24, ils sont venus pour expulser le rosier et ici pour arrêter le chantier. Et dans le forêt aussi, ils voulaient expulser. Et ça a été un peu grosse émeute et tout, et il n'y avait que 500 gendarmes. Et après, du coup, ils sont revenus le lendemain, le samedi. Et si, il y a les fantômes, parce qu'en hiver, c'est plus d'être
là. On va où, là ? C'est vraiment le village de Robin-des-Bois.
Ouais. Ici, c'est tout humide, c'est ça que tu dis ?
L'hiver, ouais.
C'est pour ça qu'il y a des petits passages ouais. Hors eau.
Mais on va y arriver.
Bonjour. Non, il y a des gens qui dorment là, c'est clair, mais pas maintenant. Cultiver ou mourir. Ce dortoir a été construit pour être dispo dans le cadre d'événements organisés ici. Du coup, si tu passes une ou plusieurs nuits à la châtaigne, tu peux te poser dans les autres dortoirs et laisser celui-là libre. Pour mieux se défendre, on a besoin de mieux s'organiser. Si un pote se fait arrêter ou a disparu après des contrôles ou des affrontements, appelle la Legal Team avec des infos simples. On pourra organiser un soutien juridique et aller le chercher quand elle sort. Ça vaut le coup de s'en préoccuper, le risque c'est quand même la tôle. Non, à la gentrification.
Je vais prendre la photo, mais je sais pas trop.
Là, tu dors ici, tu ranges ici. L'autogestion, oui, c'est ça aussi. Pardon.
Moi, en même temps, ça, c'est l'infirmerie. On peut aller voir. Peut-être qu'il y a des morts, je suis en
mourant.
Tu enregistres ou pas ?
Mes conneries. Alors, viens.
Ah, on peut aller voir l'infirmerie.
Ici, c'est l'infirmerie. Il y a quelqu'un de malade. Essayez de ne pas déranger, de bien fermer la porte. Merde.
Un humain.
On a été dérangé.
Vendredi ou la vie sauvage. C'est vendredi.
Santé, bonheur, autogestion. Santé, bonheur, autogestion. Ensemble, nous sommes le monde et le système n'est rien.
En fait, j'ai pas mal, tu vois, quand j'habitais dans la forêt occupée comme ça. Mais souvent, les gens, ils flippent vraiment du fait que tu prends des photos. Ou ils veulent pas de donner leur main. Et moi, je me demande souvent pourquoi, en fait. Pourquoi t'oses pas dire
si t'occupes.
souvent aussi qu'on a la vivelle, qu'on a des problèmes de collectivité avec les chiens et puis les bagarres et tout.
Ça, c'est fréquent?
Moi, je trouve que moi, ça me fatigue.
Qu'est-ce qui te fatigue?
Les chiens.
Ouais, les chiens et les bagarres entre eux et les groupes, et que c'est souvent dans des choses collectives. Et puis, il faut faire des réunions pour les chiens. Est-ce que c'est ça que la fille elle disait, non?
Mais qu'est-ce qu'il y a?
Réunions qui parlaient justement de diviser le côté vivre collectif et puis l'autre plus dans l'action.
Le combat. Et de, ouais. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a changé sur la vie collective?
Parce qu'il y a plein de gens qui sont débarqués après les expulsions.
Et qui sont restés.
Oui, comme ça a été médiatisé. Et
mis à disposition pour nous, pour qu'on ait un endroit pour cuisiner et tout ça. Et du coup, tu vois, il y a toute la bande à djembé qui débarque, tu vois. Des trucs comme ça. Et moi, j'étais pas du tout pour, comment c'était pas viré de partout et tout ça. C'était pas vraiment l'expulsion totale. J'étais pas du tout pour que les gens cuisinent des repas collectifs. Comme ça, tous les jours, le midi et le soir, parce que du coup, ça attire juste tout le monde qui veut juste s'asseoir à table et, et qu'ils traînent là, et ils jouent le djembé, ils boivent des bières toute la journée. Et juste, je me dis, il ne faut pas faire des services en fait. Sont embourbés et ils sont fait encercler par des gens et du coup les ouvriers ils voulaient plus continuer, ils se sentaient pas en sécurité et du coup ils ont abandonné et du coup le lendemain ils sont revenus juste pour ici et du coup ils sont venus à 500 keufs ici le samedi et du coup c'était tout encerclé par des gardes mobiles là et avec plein de gens autour.
Parce que là dans la forêt il y avait beaucoup plus de cabanes que ce qu'on voit maintenant.
Mais il y avait là juste autour là tu vois il y avait un peu un campement mais c'était déjà expulsé 4 fois avant. Il y a un grimpeur des keufs qui est tombé, qui a coupé une plateforme sur laquelle il était sans s'attacher à l'arbre.
Il est mort?
Non il est pas mort mais il est tombé, il a eu une plateforme sur sa gueule et du coup ils sont très très doués quoi. Au début d'expulsion, c'était pas encore communautisé, on était peut-être 150-200 et ils étaient 2000 keufs.
Ah, 2000.
Oui, ils étaient beaucoup plus nombreux.
Pour 150, ça fait 10 chacun. Ça fait beaucoup.
Ça coûte énormément. La première semaine d'expulsion, rien que l'hôtel des keufs, ça a coûté 1 million d'euros. Parce que du coup, c'était 2000 fois 50 euros la nuit et avec petit déjeuner, il faut tout les mettre en hôtel. Mais du coup, c'est très cher parce qu'après, encore pendant 6 mois, ils ont laissé une compagnie de gendarmes mobiles sur les carrefours, parce que les deux carrefours, là, sur la départementale, pour empêcher qu'il y ait des matériaux de construction et des trucs enflammables, des explosifs qui arrivent. Tu vois, c'est un peu n'importe quoi parce qu'en tout cas, tu vois, ça passe partout ici. Mais du coup, ils ont été là 24 sur 7. Ça faisait 200 keufs, 240 keufs en plein temps. Tous sur le terrain, machin, pendant 6 mois, pour juste être postés sur des carrefours. Pour faire chier un peu les gens qui voulaient passer. Aussi, à un moment donné, ils en avaient bien marre, ils se sont fait attaquer à plein de reprises. Tu vois, c'est un peu, ils sont postés là, à 5 camions là, ben, ça invite un peu à ce que les gens ils viennent tester leur technique d'émeute. Toi, comme ils sont là 24 sur 7, tu viens quand tu veux tout préparer, du coup.
T'entraîner quoi.
Ils sont fait chier un peu quoi.
Ou attaquer la police.
Ouais. Oui, c'est ça.
Il y a aussi des trucs ludiques. Les gens ils ont fait un truc avec un groupe qui faisait du son. Il y avait un samba qui arrivait d'un côté, qui attirait toute l'attention, et par derrière, il y a des gens qui sont venus avec des ballons d'eau pour les encercler de tous les côtés, un peu en surprise. Toi, et des trucs comme ça, il y a aussi des gens qui ont vraiment essayé de les virer avec des cocktails Molotov et avec des pierres, mais ils sont quand même fort armés quoi. Ils tirent beaucoup de grenades offensives et du coup ça blesse facilement les gens et de lacrymogènes aussi, mais aussi des grenades qui explosent quoi, des grenades offensives.
Et il y a des gens qui sont blessés là.
Oui, il y a plein de gens qui sont blessés. Par exemple, le 24 et le 25 novembre, il y a eu peut-être une centaine de blessés. Aussi, il y avait plein de gens qui sont débarqués pour faire les moutes, qui étaient vraiment n'importe comment, qui n'avaient même pas de casque ni rien, qui, tu vois, qui allaient juste comme ça, bourrés et tout. Et, tu vois, c'était pas vraiment une vraie confrontation physique, la plupart du temps.
Et toi, tu es un émeutier?
Non.
Difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso. No somos fracaso, solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy, solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Transmití para que la transmití sus gritos, mi guayón, mi que tú te vas, yo matamos su misi, y matamos la que se apagas. Transmití para que la transmití sus gritos, mi guayón, mi que tú te vas, yo matamos su misi, y matamos su misi, y matamos su. No voy a pedir permiso para ser libre. Si yo estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy.
L'émission est finie. Merci de votre écoute. La moindre des choses reviendra rendre le bruit de petites choses le mois prochain.
Somos viento.